Nous sommes jeudi 22 septembre et vous écoutez le 12e épisode de Proxy Jeux.
Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de l'actualité du jeu de société.
Et merci à Ludic Bazar de nous aider à réaliser ce podcast. Ludicbazar.com, c'est le choix, les prix, la qualité et plus de 14 000 références en stock. Du discount, du neuf et de l'occasion. Bonjour Jérémy.
Bonjour Olivier.
Comment vas-tu ?
Ça va bien.
Ça va bien aussi. Bon, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que pour vous aussi ça va. J'espère que vous êtes aussi excités que nous de l'approche du Salon international du jeu de SN.
Je te propose de commencer par un chiffre, ce numéro.
Chiffre ? 12.
Oui,
42,
c'est le
42.
27. Oui, 42, 27. Mais non, on n'est pas la réponse
c'est quoi,
aujourd'hui. C'est le nombre de jours qui restent.
Ah oui.
Avant...
Le salon du jeu des...
Alors, Olivier, ce soir, je te propose un petit sommaire, somme toute classique, en fait. On va commencer par les brèves.
Quelques brèves, surtout orientées vers les sorties de SN. Maintenant, vous allez en manger, les sorties de SN.
Ouais. Pour ceux qui n'ont pas voulu partir cette année, vous allez le regretter.
Bon, ça vous servira toujours, hein, que ce soit sur le salon ou après, pour acheter les jeux qui vont sortir. Et puis, on va parler de Eclipse, qui est aussi un jeu phare pour ce salon. On va parler de Ghost Stories. On va parler aussi des événements de l'automne, il y en a quelques-uns, enfin, on va vous reparler surtout du Salon des Sons. Ça aussi, vous allez en bouffer. Les écrans.
Quelques brèves dans les écrans et puis quelques petites applications.
Oui.
Tu voulais nous parler de Ghost Stories ?
Pour ceux qui suivent, on vous a annoncé dans le numéro 11 une critique de Ghost Stories sur iPad. Donc, la critique n'était pas terrible et elle sera... De toute façon, pas terrible, parce que on est assez déçu par le portage sur iPad. On va donc vous faire une revue de Ghost Stories, de l'extension qui va sortir à Essen en octobre, et puis on vous parlera aussi du portage sur iPad. Donc on va vous parler du jeu de base, on va vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Si vous ne connaissez pas Ghost Stories, on va vous parler de l'extension White Moon qui est sortie juste après l'année d'après la sortie de Ghost Stories. Et puis, cette année, en 2011, on va avoir l'extension Black Secrets. Et puis, on en profitera aussi pour vous parler du portage sur iPad. Un petit retour sur notre dernier dossier.
Allons-y. Donc, notre dernier dossier, pour ceux qui n'auraient pas suivi, ça parlait du Salon d'Essen, pour changer. Puisque le salon, on le redira aux événements aussi... C'est bien un peu le matraquage. C'est en octobre, du 20 au 23 octobre, donc en Allemagne, dans la ville d'Essen. On vous a fait un dossier complet pour vous expliquer comment se préparer à y aller, tout ce qu'on y trouvait, comment s'organiser sur place.
Ce qu'on peut manger.
Ce qu'on peut y manger. Oui, il y a une petite parenthèse gastronomique, si on peut pas de gastronomie. Mmh. On vous a même parlé un petit peu rapidement déjà de quelques jeux qui nous ont sur les listes, parce qu'on annonce quand même... 700 nouveautés, donc on a les listes, on a regardé un petit peu ce qui pouvait nous intéresser, ce qui pouvait vous intéresser pour ceux qui y allaient. Donc même si vous y allez pas, moi je vous dis écoutez, comme ça l'année prochaine, ou peut-être même cette année.
Donc ça va vous permettre de faire des économies, de budgétiser tout ça, et puis dans 12 mois de vous payer des petites vacances à Essen. Il faut savoir qu'une semaine au Maroc, c'est plus cher que 4 jours à Essen, donc il ne faut pas s'en priver.
Absolument rien à voir. Je veux dire, je préfère avoir de la pluie, du froid à Essen,
c'est ça,
que du soleil.
On a juste oublié quelque chose. On a juste oublié de vous parler. On vous a donné plein de petits secrets. Et on a juste oublié de vous parler de Spielmaterial.
Oui. Un stand où on va forcément au moins une fois. C'est pour le petit matériel.
C'est le paradis des meeples.
Et pas que.
Et pas que. Alors si vous cherchez des dés de toutes les formes, même sans rien dessus pour écrire des choses, par exemple, ceux qui jouent à Descente peuvent se faire des dés un peu customisés avec tout ce qu'on peut looter dedans. Si vous cherchez...
Ouais, les auteurs de jeux aussi, ceux qui vous cherchez un petit peu de matos un peu différent à mettre dans vos jeux.
Pour faire les protos.
Voilà.
On a parlé d'un jeu qui était un jeu tactile là, il y a quelques mois. On a dit qu'on pouvait se le refaire.
Ah oui, dans les jeux pour enfants, c'est à tâtons. Voilà, et c'est le moment idéal pour se le refaire. Enfin, on peut le trouver aux occasions, c'est mieux. Parce qu'à mon avis, ça revient moins cher, parce qu'en pièces détachées, ça coûte vite 20€. J'avais fait le calcul, s'il fallait acheter un peu de matériel. On peut y trouver aussi des boîtes plastiques pour ranger ses cartes. Pour
tout à fait.
Tu l'as fait, mmh. Olivier. Cette année, je le ferai, parce que pour mon mémoire 44, j'en ai un peu de partout des cartes. Bref, il y a de quoi faire. Voilà, c'est un petit stand, c'est sympa. Au niveau matos, il y avait ça. J'en profite, il y a aussi des stands qui vendent toutes sortes de dés, toutes les couleurs, toutes les formes.
Oui, c'est
très sympa. Et il y a aussi un petit stand au début du hall.
À gauche en rentrant.
Ouais, c'est presque ça. Non, c'est à droite. C'est le hall 9 où on peut acheter de la vaisselle, des petits pots, tu sais, des petits bols, machin. Puis il y a des petits meeples. Bon, c'est moyen le look, oui. Mais il y en a qui aiment bien. C'est un petit côté sympa. Il y a des petits meeples.
Ouais,
en tout cas, le stand ne désemplit pas.
Alors, si vous allez à Dessen et que vous avez des amis qui ne sont pas joueurs et que vous voulez quand même leur amener quelque chose, ou si madame n'est pas joueuse et que vous allez à Dessen.
Vous voulez afficher à votre apéro quand vous avez des amis que vous êtes joueur.
Vous pouvez ramener un petit bol avec un meeple dedans. C'est très. Voilà.
C'est très tendance, voilà.
Bon. C'est très tendance. Voilà, alors donc, Essen, c'est la 29e édition, plus de 800 exposants, 11 halls, ça n'a jamais été aussi grand, il n'y a jamais eu autant de monde, autant de
ouais,
d'éditions
ils annoncent,
de jeux.
A priori, il va être encore plus grand que le salon qu'on a eu connu les autres années, puisque 11 halls, ça fait plus que ce que moi j'ai compté, moi j'en ai dénombré 8.
On parle un petit peu des actus.
Eh ben,
en bref.
Allez, on commence alors pareil, hein, je te propose, on va faire, on va dire très originaux, on va parler de Seven Wonders.
De quoi ?
Seven Wonders, c'est toujours un jeu, bof. Faudrait qu'on l'essaye quand même de ces quatre, quand même.
Seven Wonders, il y a plusieurs choses, on peut dire plusieurs choses. Par exemple, on peut dire, bientôt, il n'y aura plus assez de place sur la boîte de Seven Wonders pour y coller les stickers des jeux, des prix des jeux qu'il a gagné.
Ouais, j'ai parlé des aventuriers du rail, puis finalement, en fait, ouais. Ils mettent les plus prestigieux.
Oui, mais alors là, il n'y aura vraiment plus de place. Enfin, il y en aura dessus, il y en aura dessous aussi. Et puis, on peut dire autre chose, on peut dire, c'est plus rapide d'annoncer les prix qu'il n'a pas gagné plutôt que d'annoncer les prix qu'il a gagné. Bon, comme ça, on va pouvoir reparler de l'As d'Or.
Il l'a gagné, celui-là ?
Ben non.
Et ouais.
Voilà.
Pourquoi ça se mérite, l'As d'Or ?
Tout ça pour dire que Seven Wonders a eu le Deutscher Spielpreis.
D'ailleurs, dans le dossier, pareil, petite parenthèse, on disait qu'il y avait la remise des prix, dont le Deutscher Spielpreis. En fait, il s'avère que la remise de ce prix-là n'est pas pendant la tenue du salon, elle se fait le mercredi soir.
Oui.
Donc, petit comité privé. Voilà.
Avec des happy few qui ont la chance d'y accéder. Ouais. Et puis, parce que c'est pas fini, Seven Wonders est nominé pour un prix espagnol.
Voilà, avec d'autres jeux moins connus.
Si, non, bon, t'as... D'ailleurs, ça m'a...
Félix, c'est le gâteau enchilado.
C'est ça, c'est Filou, le chat dans le sac de Frino and Friseux, qui a au moins 3 ans ce
c'est
jeu.
Filou, oui, d'accord, effectivement.
C'est incroyable. Donc, Seven Wonders, Filou, Finca...
Ah, puis c'est l'île interdite.
Et l'île interdite. C'est le Juego del Año. Et après, je sais pas dire 2011.
Moi non plus, je connais pas l'espagnol.
Le vainqueur de ce prix sera connu le 8 octobre. Donc on vous en redira plus.
Ça permettra de parler de Seven Wonders dans le prochain dossier. Numéro d'actu.
Écoute, je vais continuer mon prosélytisme. J'espère que pour une fois, l'île interdite sera récompensée. Wait and see. Alors, puisqu'on est en train de parler d'Antoine Boza, je voulais vous parler de Dr. Shark, qui m'a interpellé. C'est un jeu qui va sortir en octobre, mais avant le salon de Sun, je crois qu'il est prévu à mi-octobre. C'est un jeu de Boza et Catala. C'est un jeu de reconnaissance de forme, de texture. Donc en fait, y a un pitch. C'est des agents secrets qui vont à une fête donnée par un baron de la mafia et qui doivent trouver des preuves contre lui pour le faire tomber. Et l'idée, c'est qu'il va y avoir, un petit peu comme dans le donjon de Nelbug, des épreuves à faire avec un sac rempli de pièces, et il va falloir trouver des pièces qui ont la même texture, des pièces qui ont une texture différente, puisqu'elles vont avoir des formes et des textures différentes, en plus de façon différente. Alors tu vas pouvoir, par exemple, en 30 secondes, prendre une poignée de pièces, les classer par couleur. Il y aura des... puisque ça s'appelle Dr. Shark, il va y avoir des requins dans ces pièces-là, dans ces lots de pièces, et il va falloir que tu défausses toutes les couleurs où tu auras des requins, et après, il va falloir que tu trouves une pièce qui t'intéresse.
Mais c'est visible, en fait. Au début, quand on me disait que c'était tactile,
alors,
je pensais que... Oui, c'est ça, il y a des trucs qui seront cachés. Tout ce qui est tactile, ça peut être caché. D'accord, ils ont mélangé un petit peu.
Ouais. Alors, t'as différentes épreuves. Tu peux soit... une des épreuves, c'est choisir une pièce dans le sac en la regardant. Puis après, tu peux prendre, comme je t'ai dit, une poignée de pièces, ou tu peux les chercher. T'as plusieurs contraintes. Donc, comme c'est un jeu de tactile, ça m'a bien plu. Visiblement, c'est édité chez
Hurricane.
Tout à fait, la boîte
suisse
qui a
fait déjà Mister Jack.
Voilà.
Donc, on connaît bien Bono Catala.
Et Mister Jack Pocket.
Oui,
et Mister Jack à New York.
À New York, bah, ouais, voilà. C'est bien, pour une fois, ils sortent un petit peu de Mister Jack.
Je crois qu'il y aura une.
Bah, ils l'ont appelé Dr. Chat, ils l'ont appelé Mr. Chat. Tu... Ou Dr. Jack, non ils ont...
Non, parce qu'il y a un petit requin, il y a des requins partout. Tu crois qu'ils vont sortir une extension Monsieur Jack au Novotel?
Je sais pas. J'ai quelques doutes pas la même époque. Par contre, ils font peut-être Dr. Shark à New York et Dr. Shark à Phuket.
On verra.
C'est le jeu du succès. C'est quand même annoncé pour 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans, pour une durée de 40 minutes, ce qui est quand même assez long par rapport à... Enfin, un jeu taquine, on pourrait croire que c'est un petit jeu rapide. C'est annoncé donc pour courant octobre à un prix de 40-45 euros.
Il y a du matos, hein.
Bah ouais, effectivement, quand on voit le prix, mais ça m'étonne pas. Hein.
Puis il y a même un petit requin en bois, donc...
Très bien, bah écoute Olivier, j'ai hâte de tester ça à Essen.
Moi aussi.
Et puis je voulais parler de Puerto Rico. Puerto Rico, on vous en a déjà parlé lors de son portage sur iPad, donc on va peut-être pas revenir sur l'explication de la règle.
Mais Puerto Rico, c'est juste le numéro 1 à Board Game Geek depuis 8 ans, c'est ça?
Le jeu est sorti en 2002.
Ouais, mais c'est ça.
Donc voilà, il s'apprête à sortir, donc à fêter ses 10 ans. En fait, non, je dis qu'il est sorti en 2002, mais non, c'est une erreur, il a dû sortir fin
2003.
2001. Non.
Mais attends, en 2001...
Fin 2001, il a été dans les nominés du Spiel 2002, qu'il a perdu devant Villa Paletti.
Ah oui, 2001 plus 10, ça fait 2011.
Eh oui.
Oh là là.
Et donc pour ses 10 ans, il va sortir dans une version collector. Alors une version collector, c'est une belle version, mais il faut pas croire, les bâtiments, ce sera toujours des petits bouts de carton. Ils doivent les trouver vachement beaux, comme ça. Par contre, les navires seront un petit peu plus... Ce sera des planches de carton, mais en forme de navire.
Wow.
C'est vachement vendeur, ce que je vous dis. Hein. Et puis, vous aurez... non, après, il y aura les pièces. Par contre, les pièces, ce sera pas des pièces en carton. On vous mettra une photo sur le site.
Tu l'as trouvé, la photo, avant de dire qu'il va honteusement, falloir que j'aille la
trouver. Oui, t'as le lien. D'accord. On va honteusement copier du site de Alea Spiel, l'éditeur. Bref, le look change un petit peu. C'est vrai qu'il est un peu plus au goût du jour, un peu mieux. Les graphismes sont un peu plus chiadés. Mais là où bon, ça m'a fait un petit peu mal, c'est le prix qui est annoncé à 60 euros.
Oh bah 60 euros pour avoir des bâtons en carton, moi je trouve ça tout à fait acceptable.
Non, attends, je te montre les bâtons en carton, c'est sale.
Oui, attends, j'ai une question. C'est cette édition collector, on va la trouver en anglais ou alors on va la trouver uniquement en allemand?
Alors pour l'instant, c'est la version limitée pour les 10 ans, donc c'est sûr on la trouve en allemand. Les autres langues, je sais pas. Pour l'instant, Philosophia, je sais pas, ils sont pas positionnés. Donc faudra leur poser la question. Mais je peux que je craque moi à Essen.
Ouais, mais moi je rêve d'une version française et je l'achèterai pas en l'état. Si c'est une version collector, à la limite en anglais, je peux craquer, mais en allemand, non.
Bah, à moins que le Philosophia se prononce rapidement sur le portage français.
Philo, avec nous. Alors, j'ai dit une connerie quand même.
Ah.
Oui, parce qu'en fait, Puerto Rico n'est pas premier au Board Game Geek. C'est Twilight Struggle.
Non.
Si.
Twilight en premier.
Twilight Struggle.
C'est, le public américain n'est pas le même que... Enfin, c'est international, mais quand même.
C'est quoi le premier sur Trick Track? Eh ben, c'est Puerto Rico aussi.
Pour changer.
Comme quoi?
Devant Citadel et Caylus.
Très bon jeu, Caylus. Très méchant.
Ensuite, les loups-garous et Agricola.
Très bon jeu, c'est Agricola.
C'est que des bons jeux. Après, c'est les aventuriers du rail. Après, en fonction qu'on a scrollé, c'est Small World, Petit Tigre Euphrate, les Chevaliers à table ronde et encore un aventurier du rail. Un très beau palmarès.
Et puis, dans ma boîte aux lettres électronique, j'ai reçu un communiqué de presse sur Steam Torpedo. Alors, Steam Torpedo, déjà, j'aime bien le steampunk. Il y a Steam dans le nom du jeu, donc ça m'a bien plu. Ensuite, j'ai lu le petit background du jeu, et ça m'a encore bien plu. C'est de l'Uchronie, et j'adore. L'idée, c'est que la Deuxième Guerre mondiale voit... La Première Guerre mondiale voit l'avènement d'une arme destructrice, et qui va brouiller un petit peu les cartes, et qui va faire que tout le monde va se taper sur la gueule, avec des pans entiers de civilisation qui vont être anéantis. Et donc, l'homme va déporter le combat sous la mer. Donc, c'est un jeu à deux joueurs, qui prend 30 à 45 minutes. Alors, c'est un jeu pour des adolescents et plus. L'idée, c'est que chacun va avoir le contrôle d'un sous-marin et va devoir torpiller l'autre, au sens propre.
Ouais.
Au début du jeu, on va construire son sous-marin, on va prendre 10 tuiles. Chaque tuile va correspondre à une motorisation, du blindage, de l'oxygène. Et avec ça, on customise son sous-marin avec un équipage. Et l'équipage va, en se déplaçant sur les tuiles, en activant les tuiles, permettre de jouer. On a aussi, donc on va avoir ces 10 tuiles devant soi, chacun va avoir deux lignes de 5 tuiles devant soi. Et entre chaque sous-marin constitué de tuiles, on va avoir deux petits sous-marins sur des petits... comment ça s'appelle ? Petits trépieds ? C'est pas des trépieds parce qu'il y a trois pattes.
Ouais, des petits supports pions, je
pense. Des supports. Plastique. Et qui vont bouger, en fait. On va recréer, en fait, en 3D un combat de sous-marin. Donc l'idée a l'air très intéressante. À voir après parce que.
Ouais, quand même, ce que t'as pas dit.
Non, enfin, non j'avais pas
c'est
dit.
C'est un non-dit, ouais, c'est non. Ça, tu passes aussi. On a l'impression qu'on pioche 10 tuiles au début qui sont au hasard et qui forment le sous-marin.
J'ai dit customisable.
Ah oui, ouais, mais customisable. Enfin, le sous-marin, en fait, on construit vraiment son sous-marin comme on veut. Mais par contre, ça fait quoi? Il faut dans la même boîte, c'est-à-dire qu'il y a assez pour construire deux sous-marins?
Eh bien non, Jérémy, on ne peut pas. On n'a que 10 compartiments pour chaque sous-marin, donc on peut construire deux sous-marins. Par contre, l'idée de l'éditeur, qui est un nouvel éditeur, qui s'appelle le...
Serious Pulp.
Serious Pulp. Donc son idée, c'est de faire des boosters.
Ah.
Oui, et tu vas avoir 10 nouveaux compartiments à chaque booster.
Et c'est des boosters comment?
Ben, c'est des boosters carrés. Parce que les tuiles sont carrées.
Non, mais c'est du aléatoire ou pas
Non.
Je veux dire, est-ce que c'est comme du JCE ou est-ce que c'est comme du JCC?
Alors,
est-ce que c'est comme jeu de cartes évolutif où tes boosters, c'est toujours les mêmes cartes qui sont dedans, ou bien comme du Magic où c'est totalement aléatoire?
Non, c'est pas aléatoire. C'est-à-dire que tu vas avoir des extensions avec 10 cartes nouvelles que tu vas pouvoir utiliser dans le jeu avec le jeu de base comme
d'accord.
JCE. Voilà. Donc, ça va être un peu trop tard quand vous écouterez ça, mais on peut faire des essais à Paris au Café Messia. Je pense qu'il y aura d'autres moments où on pourra l'essayer. Et avant sa sortie, qui est prévue en novembre.
Ouais, de toute façon, sur leur site internet, on peut voir la vidéo, on peut télécharger la règle. Donc, tout y est. Juste pour citer quand même les auteurs, qui sont à la fois l'éditeur, du coup, c'est Ludovic Roudy, et Bruno Sauter.
C'est Ludovic Roudy qui a fait le design et design qui est assez sympa en fin de compte.
Ouais, j'aime bien le design.
Voilà. Là, je suis pas très fan de l'équipage, on dirait que bah tu me diras c'est des mecs qui ont passé je sais pas combien de temps dans un sous-marin, donc c'est normal. Alors tout ça me fait penser un peu au film des années 80 qui s'appelait Das Boot. Je sais pas si tu t'en souviens.
Ah oui, un film allemand.
Film culte.
C'est sur la Seconde Guerre mondiale par contre. Mais c'est oui. Pareil, c'est l'équipage qui part d'Allemagne, je pense, souvenir vague, et qui va devoir aller jusqu'en Italie, donc ils vont devoir passer notamment, il y a un passage difficile pour eux qui va être Gibraltar, où les pauvres ils vont être touchés et aller s'échouer sur un banc de sable, enfin bref, plein de... Le film est quand même un petit peu mou, hein. Ça dure presque 3 heures, et l'action, de la tension comme à Gibraltar, il n'y en a quand même pas tout le film, mais c'est quand même pas mal, et j'adore, le final est assez... faut pas le révéler, mais...
On peut pas spoiler, tu veux dire?
Ouais, je veux pas spoiler.
Bon, bah, regardez.
Je vais pas dire qu'à la fin. Non, non, je le dis pas.
Non, regardez Das Boot. C'est un film qui vaut le coup. Et puis après, vous pourrez revivre une partie de ses aventures en jouant à Steam Torpedo.
J'imagine que tu te souviens, Olivier, dans la saison 1, on avait parlé de Pingouin.
Hein. Oui, je me souviens.
Voilà. Qui s'appelle aussi Eat a Smash Fish. On en avait parlé à l'occasion de sa sortie sur iPad. Mmh. On trouvait le portage très bien.
Tout à fait.
Il se trouve d'ailleurs qu'entre-temps, j'ai découvert qu'il existait également sur Android.
Tout à fait.
La même version. Par contre, j'ai pas pu le tester, donc, mais je pense qu'il est aussi, aussi agréable.
Oui, ça doit être pour la même chose.
Ouais. Juste, je sais pas s'il est plus ou moins buggé, j'en sais rien du tout. Non, c'est un peu plus fréquent sur les Android quand même que sur les iPad. Et donc, ce petit jeu où il faut simplement...
Déplacer des pingouins.
On va résumer, ouais, c'est un petit jeu un petit peu de blocage, un petit peu de placement, où on va déplacer des pingouins en suivant des lignes, et chaque fois qu'ils quittent une tuile, ça, elle disparaît. Ils sont sur la banquise s'effondre. Mmh. Et les tuiles ainsi remportées marquent des points, 1, 2 ou 3 points.
Les poissons.
Un jeu très dynamique, très rapide, et qui donc revient, pour en dire comme un news, qui arrive chez Edge, réédité, pour environ 15 euros.
Oui, la modique somme de 15 euros, et ça, il faut le signaler.
Ouais, c'est pas cher parce que je pense qu'avant il était édité un peu plus. Voilà. Par contre, on avait dit quand même, je vais résumer ce qu'on avait dit sur iPad, on trouvait le portage très bien. En plus, l'avantage c'est qu'on lance une partie, il n'y a pas besoin de mettre en place le plateau.
Tu es en train de refaire la critique d'iPad ?
Ouais, je refais tout. Alors,
non, on s'en fout. Je veux dire, on verra les gens vers le.
Non. Ah bon, t'es comme ça. Juste pour dire, c'est bien, mais la version iPad est parfaite. Enfin, elle suffit. Pour une fois, c'est un jeu qui porte très bien à la tablette.
Ah, donc c'est. Bref, proxy jeu. Edge réédite Pingouin, 15 euros. Mais ne l'achetez pas. Achetez-vous une tablette à 500 euros chez Apple. Et oui, vous jouerez à Pingouin.
Ouais, mais si tu l'as déjà ta tablette.
C'est ça. Donc, pour ceux qui ont déjà une tablette, alors ça suffit à soi-même. Pour ceux qui n'ont pas de tablette, ou peut-être qui ont une Android qui bug, alors achetez-vous Pingouin chez Edge.
Y a pas très bien.
C'est le conseil de Jérémy. Merci, Jérémy. On vous a aussi pas mal parlé de rondelles dans les épisodes précédents de Proxy Jeux. En fait, on vous a parlé de la rondelle de McGertz.
Ouais, moi, je vous parle de roue. Olivier vous parle de rondelle, après chacun fait...
Et moi je voudrais vous parler de la rondelle de Uwe Rosenberg. Puisque après Agricola, après Le Havre, Uwe Rosenberg arrive avec Aura et Labora.
Le Agricola.
C'est comme ça qu'il est présenté, c'est censé être un mixte des deux, enfin, c'est surtout orienté Le Havre, et puis il y a une rondelle qui permet de faire des actions. Pourquoi on vous en parle ? On va vous en parler juste en bref, pour vous dire que ça sort
Aizen
en VF. Alors, les années précédentes, on a vu Agricola être francisé par Istari. On a vu Le Havre être francisé par Istari. Et puis, il y a eu une année où ça n'a plus été le cas. Ça a été Le Yang. Pas forcément un mal pour Istari.
Mais ils ont du flair.
Oui, je pense qu'ils sont fait...
Ils sont rendus compte que le truc n'était pas bon.
Non, ils se sont fait couper l'herbe sous le pied. Enfin bon, ça, c'est une chose. Alors, Aizen, vous trouverez la version allemande.
Ils n'ont pas fait Mercator non plus.
Vous trouverez la version anglaise, et puis, alors peut-être Aizen, mais surtout dans vos boutiques préférées, et notamment chez Ludic Bazar, vous trouverez la version française de Aura et Labora chez Philosophia.
Qui garde le même nom.
Je pense que ce sera Aura et Labora. Aura et commercial Labora. Pourquoi Philosophia ? Eh bien, je pense que simplement, Philosophia ayant racheté Zenman, Zenman étant... L'éditeur distributeur en Amérique
des jeux Lookout,
c'était beaucoup plus facile pour eux d'avoir un partenariat avec Lookout et faire quelque chose, un package complet anglais et français.
Mais d'ailleurs est déjà arrivé sur les étals La Gloire de Rome. C'est un jeu qui est sorti par chez Lookout et qui est déjà arrivé qui est vendu en français estampillé Philosophia dans nos boutiques.
Aura et Labora, c'est donné pour à peu près 2 heures, de 1 à 4 joueurs, donc ça se joue tout seul, et à partir de 10 ans. Donc il y aura certainement une version familiale comme dans Agricola, et puis une version un peu plus gamer. Et ça sera vendu 40€ dans toutes les bonnes boutiques. J'ai eu la chance de faire une partie d'Eclipse, donc je voulais vous en parler, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe, puis je vais vous donner mon ressenti. Alors comme je vous en avais déjà parlé, Eclipse c'est un jeu d'exploration, de mise en place d'une économie, d'expansion et de baston. Donc, il y a les 4 axes et il faut s'étendre et puis forcément guerroyer parce que l'espace n'est pas assez grand pour tout le monde. Le but du jeu, c'est au bout de 9 tours, parce qu'une partie dure 9 tours, avoir le plus de points de victoire, et les points de victoire, tu les as en explorant. Donc on peut retourner des tuiles et puis les coloniser. En se développant, puisqu'on a des recherches, on peut faire des recherches sur des développements qu'on va pouvoir utiliser dans ces vaisseaux spatiaux, en se battant, parce que la guerre c'est bien, et on peut aussi construire des monolithes qui vont nous rapporter 3 points de victoire par monolithe, donc ça fait toujours des points en plus. À chaque tour tu vas pouvoir explorer ou influencer. Influencer c'est important, je reviendrai tout à l'heure sur ce que c'est, c'est une autre façon de gérer les jetons, parce que t'as des jetons. De faire des recherches, donc en fait on fait des recherches et quand on a le développement qui nous permet d'avoir des canons à plasma et puis des canons à ions, ben on peut les équiper. Donc ça c'est une autre action, c'est l'upgrade. On peut construire, bien sûr, des vaisseaux de combat et puis on peut se déplacer. Alors c'est rigolo parce que chaque race a des plateaux individuels et qui changent légèrement, c'est-à-dire que chaque race a un petit plus ou un petit moins. T'as des races qui sont plus orientées baston, t'as des races qui sont plus orientées développement, des choses comme ça. Et puis, sur ces plateaux individuels, tu vas avoir une empreinte de vaisseau. C'est-à-dire que tu vas avoir la silhouette du vaisseau et tu vas avoir ses caractéristiques. L'énergie qu'il a, la coque, les armes, des choses comme ça. Et tu vas pouvoir faire varier ces choses-là. Tu vas pouvoir faire des gros tanks que tu vas pouvoir blinder à fond et envoyer, ça sera possible. Dans la limite de l'énergie que tu vas avoir, tu vas pouvoir upgrader ses moteurs, etc. Chacun va pouvoir faire autant d'actions qu'il le veut, dans la mesure où il y a un système où, à la fin de ton tour, tu vas devoir payer un entretien de ton monde, et c'est ça, c'est quelque chose qui est très très bien trouvé. parce qu'il y a quand même une gestion du jeu qui est assez importante. Et donc quand tout le monde a passé, on peut toujours faire quelques actions en réaction. C'est-à-dire qu'on a passé, on ne peut plus jouer, mais on a quand même la possibilité de faire soit un upgrade, soit une construction, soit un mouvement, mais tu ne peux pas le faire dans la mesure où tu l'aurais fait avant. Donc ça, j'expliquerai que en fait, quand tu fais, par exemple, un mouvement, tu peux bouger deux fois. Ça dépend des races, mais par exemple, tu peux bouger deux fois. Quand tu le fais en réaction, tu ne peux bouger qu'une fois. C'est dégradé. L'exploration. Il y a trois zones. Tu as le centre de la galaxie, après tu as le premier anneau, le deuxième anneau où vont se trouver les joueurs, et puis après tu as le reste de la galaxie qui est plus loin. L'espace où tu vas avoir moins de colonies, moins de rencontres avec des extraterrestres, tout ça. C'est un système où en fait tu as des chemins en fait, qui te font passer. Tu peux bloquer des tuiles, donc ça c'est intéressant. Puis tu as une recherche qui permet de traverser quand même. Dans ce jeu, il y a trois monnaies. C'est-à-dire tu vas avoir des colonies qui vont te rapporter du marron. Le marron, ça va te permettre de faire des constructions. Il y a des colonies qui vont te rapporter du rose. Le rose, ça va te permettre de faire des recherches scientifiques. Et puis, tu vas avoir des colonies qui vont te rapporter du orange. Et l'orange, en fait, ça va te permettre de payer l'entretien général de ton monde. Alors, j'ai dit que c'était une particularité qui était particulièrement intéressante. C'est que on a une petite échelle avec des disques. Ces disques vont nous permettre de faire des actions. Donc, on va poser un disque qu'on va prendre sur l'échelle sur l'action qu'on a choisie. Et par exemple, quand on a pris coloniser, on va prendre un autre disque qu'on va poser au centre de la galaxie qu'on aura dévoilé. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, on va avoir moins de disques. Et les disques ont une valeur dessous, sous ces disques, tu vas avoir des valeurs 0, 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 5, moins 8, moins 12, moins 15. Et en fonction du plus tu vas faire d'action, et plus l'upkeep, l'entretien de ta galaxie, sera important. C'est-à-dire ton royaume va être plus... Tu vas avoir besoin de payer plus. Et en fin de compte, c'est en... Tu as aussi une échelle avec des petits cubes, pour l'orange, la ressource orange. Et à mesure de quand tu explores, tu vas pouvoir poser des cubes orange sur des galaxies orange, ce qui va donner du revenu, qui va te permettre de payer. Donc c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais si tu veux, t'as un moyen de d'équilibrage entre je me développe, et ça, normalement, dans un jeu de développement, tu te développes à fond, et puis t'arrives à avoir plein de ressources, c'est la fiesta. Là, si tu te développes plus trop, tu vas plus avoir d'action à pouvoir faire, plus de disques pour pouvoir faire d'autres actions. Donc c'est un jeu de baston, mais aussi de gestion. La baston, elle n'est pas négligeable parce que ça donne des points de victoire. Et puis c'est très rigolo d'upgrader ces vaisseaux. Tu leur donnes un peu plus de boucliers, un peu plus des plus gros guns. Et puis il y a aussi une particularité, c'est que les vaisseaux touchent sur un 6, mais tu vas pouvoir te donner des modificateurs. Donc plus 1, plus 2, plus 3. Donc tu vas toucher sur un 6, sur un 6, un 5, sur un 6, un 5, un 4, etc. Donc tu peux arriver à avoir des vaisseaux qui touchent toujours en fait. Ou alors tu auras des vaisseaux qui touchent pas souvent, mais qui vont faire de gros dégâts. J'ai fait une partie à deux, donc la part de négociation, dans ma partie, elle n'existait pas.
Pas taper ce tour-ci, s'il te plaît.
Oui, c'est ça. Par contre, de base, c'est une portion qui est quand même assez réduite, où il y a un mécanisme où tu peux t'allier avec d'autres races. C'est pas le cœur du jeu, je pense que le cœur du jeu, c'est plutôt de dire « Attention, regardez là-bas, il est en train de se faire un gros royaume, il vaut mieux l'attaquer ». C'est plus une, t'as plus des négociations.
Encore un jeu où faut pas partir en tête trop vite.
Ouais, tout à fait. C'est plus ça que tu vas avoir plutôt qu'une vraie phase de négociation avec des votes comme tu peux trouver dans Twilight Empire. Le gros point négatif que je vois à ce jeu, ce sont les mini tout pourris, hein, qui nous ont mis. Alors, il y en a beaucoup, il y a énormément de matos. Enfin, il y a 11 plaques à dépuncher, avec des tuiles, pour le développement, pour les points de victoire, pour la galaxie, en fait, c'est énorme, t'as plein de matos, ça explique en grande partie le prix du jeu. Tu vas avoir aussi une brouette de dés, et puis tu vas avoir des petits vaisseaux. Alors t'as des gros vaisseaux, des moyens vaisseaux, des petits vaisseaux, ils sont pas très beaux, ils sont très fonctionnels, tu vois bien la différence, et bon, ça va quoi, tu joues avec. Quand tu compares le matériel avec Battleship Galaxy, ça n'a rien à voir. Battleship Galaxy, c'est super beau, c'est tout stylé, c'est super beau. Bon, maintenant, c'est pas ça le cœur du jeu. Le cœur du jeu, c'est plus la gestion, le développement de ton royaume, enfin, ton royaume, de ton... Je sais pas, comment on dit ?
Empire.
Galaxy, empire. ton empire intersidéral. Donc c'est plus ça qui rentre en compte plutôt que vraiment un jeu de baston. Mais ça, quand même, tout a son importance. Tu gagnes des points de victoire également quand tu fais des recherches. C'est-à-dire, plus tu fais des recherches, au fur et à mesure, tu vas payer moins cher les recherches du même type. Et en plus, à un moment donné, ça va te rapporter des points de victoire. Donc, t'as quand même plein d'axes de développement possibles. Et c'est vraiment, c'est une très, très, très bonne surprise.
Combien de temps, à peu près?
Combien de temps? Ça a bien duré 2 heures. Deux heures et demie.
Explication de récompense ou même...
Oui, explication de récompense.
Donc, ouais, d'accord. Nous, à 4, on peut compter effectivement que c'est jusqu'à combien? 5,
non,
6.
Je pense qu'à 4, il faut 3... Ouais, ça dépend, en fait. Ça dépend parce que ces jeux-là, soit tu commences à te...
Oui, tu tapes tout de suite dessus.
Voilà, enfin, si tout le monde joue dans son coin, ce qui, à mon avis, n'arrivera pas, mais si tout le monde se regarde en chien de faïence et on va pas au contact, ça peut être plus court. Par contre, quand tu commences à t'attaquer, tu vas avoir des attaques en cascade puisque chacun va se retrouver dans la galaxie de l'autre. Ça va être un peu le bordel et là, ça va prendre du temps. Mais je pense que c'est assez gérable, quoi. Je pense qu'en 3 heures, 3 heures et demie... tu peux faire une partie à 4, quoi. Eclipse, c'est un jeu de Tuukko Taco Kallio, un Finlandais. C'est une coédition massive italienne, franco-finlandaise, polonaise aussi, éditée par Istari, distribuée par Asmodée. Ça se joue de 2 à 6 joueurs. Ça va sortir, bien sûr, pour le Salon d'Essen. Ça se joue bien à 4, 5, 6, hein, mais voilà. 14 ans et plus, je peux jouer un petit peu plus tôt parce que il y a plein de pictogrammes et qu'il n'y a pas à savoir lire.
Ouais, c'est mettre en place la stratégie qui fait l'âge après.
Ouais, mais bon, il vaut mieux, tu sais, t'invites un adolescent, tu dis vas-y, vas-y, vas-y,
vas-y, cogne, vas-y.
À faire valoir. C'est toujours bien dans ces jeux, voilà. À faire valoir. Et ça dure 2 heures et plus, compter 3 heures, mais bon, s'il faut. Si vous tchatchez un petit peu, c'est bien 3 heures. Eclipse, c'est 67,90€ chez Ludic Bazar. Et Jérémy, tu vas pouvoir précommander ton Eclipse chez notre sponsor. Alors, ce qui est bien, c'est que tu vas payer aujourd'hui. Et puis, tu l'auras dans ta boîte aux lettres dès qu'on reviendra d'Essen.
Ouais, ou en novembre, je crois. Mais ça, c'est pas gênant. C'est
ça
parfait.
Ça
arrive
juste après.
C'est parfait. Il ira au pied du sapin comme ça.
De la même façon, Aura Elabora, c'est 39,90€ chez Ludic Bazar. Vous pouvez le précommander. Et il arrivera dès qu'il sortira en français. Vous n'aurez pas à attendre.
Ouais, c'est génial. La surprise au pied de la boîte aux lettres. Enfin, dans la boîte aux lettres.
Ouais, tout à fait. Je vous rappelle le site internet www.ludicbazar. Alors, Ludic Bazar, tout ça s'attache. Ludic avec un K et bazar sans rien, AR. Donc, ludicbazar.com. Et puis, on vous rappelle le choix, le prix, la qualité et surtout un énorme stock avec 14 000 références. On s'est trompé la fois dernière, c'était pas 1400 références, c'était plutôt 14 000. Voilà, ils font aussi du neuf et de l'occasion, ils font du discount.
Du déstockage.
Et du déstockage, ils font plein de choses.
Alors, pas mal de figurines notamment.
Rendez-vous sur www.ludicbazar.com. Puis une petite précision, 67,90€ pour un Eclipse, c'est le prix pour tout le monde. C'est-à-dire que si vous êtes client fidèle de Ludic Bazar, vous allez avoir 5%, puis 10%, puis 15% de réduction. Et si vous avez 15%, vous toucherez votre Eclipse à moins de 60€, 57€, quelque chose.
Ce soir, on vous présente Ghost Stories. On va faire un petit aparté sur le jeu de base. Et puis les deux extensions qui... Enfin, celle qui est sortie, la prochaine qui arrive
Ouais, l'actualité se presse beaucoup à parler de Ghost Stories avec le portage sur iPad et la nouvelle extension de Black Secrets.
Donc on s'est dit qu'on allait en profiter pour mettre un petit focus. Pourquoi ? Parce que Ghost Stories, c'est un jeu qu'on aime beaucoup. Et qui mérite d'être connu parmi les joueurs. Ça fait partie des meilleurs jeux coopératifs. Donc... Le principe, je l'ai dit, Ghost Stories, c'est un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs. Idéalement à 4 joueurs, c'est là qu'il y a vraiment la dimension coopérative. Évidemment. C'est au Japon.
En Asie.
Ouais, elle est en Asie, on sait pas où en Asie. Un village est tenté et les joueurs vont incarner des moines.
Ninjas.
Des taoïstes.
Ninjas.
Non, c'est pas des ninjas. Des moines taoïstes. Qui ont des pouvoirs et qui vont donc tenter de repousser tous ces fantômes. Donc chaque moine a son propre plateau individuel et ses propres pouvoirs. Je ne vais pas décrire, mais certains peuvent mieux combattre, d'autres mieux se déplacer, d'autres ont des bonus sur des tuiles, etc. Le village est constitué de 9 tuiles avec les villageois qui vont tous, sur chaque tuile, il y a un pouvoir différent. Donc ça fait un carré de 3 cases par 3. Les plateaux individuels sont placés sur chacun des côtés du carré. Et ensuite, les joueurs jouent à tour de rôle. Donc le joueur, première action qu'il va faire, c'est piocher une carte fantôme.
Oui, il va faire le mal, et après il va essayer de combattre le mal.
Voilà, un peu comme la tradition dans les jeux coopératifs, avec des cartes.
Sans félon, pour le jeu de base.
Oui, bah dans celui-là, il vaut mieux. Alors,
c'est suffisamment difficile comme ça.
On a déjà bien du mal, alors ça suffit, pas de félon. Donc le joueur pioche une carte avec le fantôme, il a une couleur. Donc ça peut être bleu, jaune, rouge, vert ou noir.
La même couleur que les moines.
Voilà. Donc si jamais il est d'une couleur d'un plateau d'un joueur, il va essayer d'abord de le placer sur une des trois cases du plateau de ce joueur. Par exemple, un fantôme vert, il faudra le placer sur une des cases vert, du plateau vert.
Mmh.
Si le plateau est plein, ça va commencer à être le drame et il faudra le mettre ailleurs. Si au début de son tour, un joueur a déjà son plateau plein, dans ces cas-là, il va perdre un point de vie. Il va pas piocher lui de fantôme, mais il va perdre un point de vie.
Et dans la configuration de base, le jeu standard, on a 3 points de vie. Chaque joueur a 3 points de vie.
Ah oui, c'est dans le facile, on en a 4.
C'est ça. Ouais. Et c'est la phase d'initiation. Il y a diverses possibilités.
Ouais, mais quand on veut jouer, c'est trop de pression, le mode d'initiation est déjà bien. Bon, on dérive. Les cartes sur les emplacements sur les plateaux, il y en a 3. Ils sont chacun en face d'une ligne de tuiles de villageois. Et il y a des fantômes qui vont pas tous, mais certains qui vont progresser.
En plus, qui
vont aller hanter le village. Ils progressent très vite puisqu'en 3 tours, ils hantent une tuile village. Dans ces cas-là, la tuile est retournée et on peut plus utiliser son pouvoir. Le fantôme, pour autant, va continuer à être une menace et pourra hanter plus tard une autre tuile. Attention, à partir de 3 tuiles hantées, les joueurs perdent la partie.
Toujours dans le mode normal.
Ouais, dans le mode normal.
Sinon, en initiation, c'est 4.
C'est 4, ouais. Ça laisse un peu plus souffler. Donc 3 tuiles, ça va très vite. Une fois que le joueur a fait le mal, il va pouvoir se déplacer. Alors se déplacer sur le plateau, bah, c'est facile. Son pion est sur une des cases village. Il le prend, il peut aller sur une autre tuile village à côté. Mais il peut faire un déplacement que de une case.
Mais en diagonale aussi.
En diagonale aussi, ouais, quand même, heureusement. Donc il se déplace et ensuite il a au choix, il va pouvoir ou bien utiliser le pouvoir de la tuile village ou bien tenter d'exorciser un fantôme qui serait à côté de lui.
Sauf pour le joueur bleu, qui lui peut combattre et utiliser la tuile.
Ouais, sur un de ses deux pouvoirs.
C'est son pouvoir, sinon il peut utiliser deux fois la tuile ou combattre deux fois. C'est le genre de pouvoir en fait qu'ont les ninjas.
Voilà, donc celui-là est très utile effectivement, celui du moine bleu. Alors pour un combat, comment ça se passe? Un fantôme, il a une force de 1 à 4. Le joueur va lancer 3D.
De base.
3D de base, ouais, on va faire déjà le cas simple. Il lance les dés. Donc par exemple, si jamais c'est un fantôme vert qui a une force de 3, il faut que le joueur, quand il lance les dés, il obtienne 3 faces vertes. Alors, sur le dé, il y a les faces, il y a les 4 faces
les 4 faces colorées,
couleurs, 4
plus
faces colorées,
noir, plus blanc.
Plus noir et blanc. Et blanc est un joker et vaut pour n'importe quelle couleur. Mais pour faire, vous voyez bien, si vous voulez faire avec 3D, 3 faces vertes,
c'est pas facile.
Ça va être difficile. Donc si vous comptez uniquement sur la chance,
vous êtes mort.
Vous avez déjà perdu la partie. Parce que en fait, c'est toute la subtilité du jeu, c'est-à-dire qu'on peut compter un peu sur la chance, mais globalement, il faut surtout savoir la mettre de son côté. Et pour ça, il va donc falloir utiliser les pouvoirs des tuiles des villageois pour gagner, par exemple, des jetons Tao. Donc un jeton Tao, c'est par exemple un jeton vert qu'on va poursuivre dans un combat. Une fois qu'on a lancé les dés, on peut défausser un jeton vert pour tout de suite gagner en fait l'équivalent d'une face verte d'un dé.
Oui, on n'a pas le. C'est après avoir lancé les dés, on peut rectifier et donner des jetons Tao.
Voilà. Alors, en sachant que les jetons Tao, il n'y en a quand même pas beaucoup dans le jeu. Je veux dire, le stock est limité, c'est fait exprès. Donc, c'est pareil, les joueurs ne peuvent pas faire du stock énormément.
Et s'il y a un joueur qui est parti à vouloir accumuler pour pouvoir se battre contre un fantôme d'une couleur spécifique, il ne faut pas que quelqu'un d'autre commence à prendre les mêmes jetons, sinon ça marchera pas.
Ouais, parce que les fantômes à 4, c'est quand même costaud à éliminer.
Et il est possible, quand on se bat, de mutualiser les jetons. Alors on peut se mettre sur la même case un autre joueur et puis on peut utiliser le jeton de ce
oui,
joueur-là.
Oui, si les deux moines sont sur la même case, effectivement, le joueur qui ne participe pas au combat peut quand même donner des jetons pour assister à l'autre joueur qui combat. Ça, ça aide. La subtilité, enfin, la difficulté du jeu, c'est que un fantôme arrive par tour, minimum. Il peut y en avoir même plus. Des fois, quand un fantôme arrive, il demande d'en amener encore un deuxième. Souvent, c'est des fantômes qui sont un petit peu plus faibles que d'autres. Mais n'empêche qu'ils arrivent à deux.
Ça compense.
Ça compense un peu, des fois, méchamment. Et oui. Qu'à son tour, un joueur, il doit choisir entre le combat ou le pouvoir de la tuile. C'est ça qui est le plus dur. Parce que on aurait tendance à vouloir faire les deux, tellement on a besoin de l'aide des villageois. Et en même temps, tellement il y a une pression qu'il faut éliminer les fantômes.
Oui, c'est pour ça que j'ai une tendresse particulière pour le bleu, en fait. Pouvoir faire les deux, c'est vraiment surpuissant.
Oui, il est. Oui. Il y a sa force. Il y en a d'autres. En fait, chaque moine, il prend un plateau au hasard et il choisit une face. Enfin, il choisit pas, il prend la face au hasard.
Oui. Bah non.
Oui, tu fais comme tu veux.
Moi, non.
C'est ton jeu, tu fais comme tu veux.
Chez moi, j'ai choisi.
Oui. Monsieur Robotron n'est pas chez nous pour vérifier comment on joue.
Alors, moi, perso, déjà, j'y arrive pas en choisissant la tuile. Alors, je vais dire, si je dois le prendre au hasard, non seulement je vais me faire suer, mais en plus. Je vais pas gagner, donc voilà.
La partie découverte, c'est pas très gênant après. Ouais.
Non, mais
prendre à ses préférences.
Une fois que t'as trouvé le truc, après il faut changer un petit peu. Ça permet de diversifier et puis se donner un challenge supplémentaire. Mais à mon niveau, ça marche pas. Ce que t'as pas dit, c'est que les fantômes pouvaient avoir des effets quand ils arrivaient en jeu, à chaque tour,
ah oui,
et quand
vrai.
Ils disparaissent.
Mmh. Ah oui, c'est un effet du mal. Hein.
Donc parfois, on enlève un dé. Et surtout les fantômes noirs qui ont ce genre d'effet. On enlève un dé, on en a plus que deux. Ça fait mal.
Puis il faut quand même réussir à faire deux ou trois pour les avoir.
Il y a des pouvoirs qui peuvent s'additionner, comme j'enlève un dé, et en plus, je ne peux plus utiliser de jetons Tao. Et là, c'est le drame. Mais comment qu'on gagne, Jeremy ?
Alors, on gagne.
Enfin, surtout, comment est-ce qu'on perd ?
Alors, pour perdre, c'est pas très dur. Hein. On a dit, il suffit qu'on ait trois tuiles qui soient hantées sur le village, ou bien que tous les joueurs soient morts. Ce qui peut arriver. Quand un joueur est mort, si la tuile village qui le permet est encore active, on peut aller faire ressusciter le moine. C'est pas mal. On est toujours mieux à 4 qu'à 3 ou 2. Voilà, ça c'est les façons qu'on a de perdre, assez fréquentes. Et puis il y a une façon de gagner, c'est qu'en fait, bon déjà, on se tape un paquet de vagues d'assaut de fantômes pendant plusieurs tours. Et puis on glisse dans les dernières cartes, on glisse le grand méchant.
Wu Fang.
Alors Wu Fang en plus, c'est pas forcément un Wu Fang.
C'est un polymorphe.
Il peut avoir 5 formes.
Et 5 ? Non.
C'est 5 ?
Oh bah, en fait, le problème, c'est que... C'est pas un problème. En fait, le truc, c'est qu'il y a énormément...
Il y a
eu énormément
des
extensions.
Mais dans le jeu de base, c'est 5. Et donc, le méchant, en fonction de... Donc, elle est prise au hasard parmi les cartes du méchant de Wu Fang. On en prend un au hasard. On le glisse dans les dernières cartes de la pile.
Ouais, c'est en 11e position par rapport à la fin de...
Voilà, et il faut quand il arrive, donc du coup, en fait, il n'a pas, en fonction de celui qui a été pioché, il n'a pas les mêmes conditions pour être tué. Il y en a des plus durs que d'autres. Il y en a un, c'est un truc de taré. Hein. Donc, il y a celui où pour le tuer, il faut faire 2 rouges, 2 verts, 2 bleus et 2 jaunes en lançant
3D.
Bon courage. Donc là, il faut aller à fond dans les jetons Tao. Celui-là, il est un petit peu coriace.
Et puis, on a le Vampire Lord. Là, c'est un jaune, c'est 4 jaunes. Oh, c'est faisable quoi. Et c'est vrai que en fonction du Wu-Fang que tu vas taper à la fin, c'est pas la même.
Ouais. En sachant que des fois quand Wu-Fang arrive, on est déjà
on est agonisant, il y a des plateaux qui sont tous
remplis. On est à l'agonie, on est déjà on a du mal souvent il faut en permanence courir d'un bout à l'autre du plateau pour éviter que les fantômes hantent les tuiles soit remplissent tout le plateau d'un joueur etc., ce qui complique sérieusement le jeu. Et quand Wu Fang arrive des fois, mais de toute façon, on n'a même pas le temps de s'occuper de lui, tellement on est déjà occupé sur tout le reste.
Mais il faut. Quand même, le but du jeu, c'est tuer Wu.
Voilà, le but du jeu, c'est quand même de le tuer. C'est pas facile. En sachant qu'après, quand on a réussi à le tuer, il y a un système de points, et puis on peut écrire son score qu'on a réussi à faire. Voilà, bon, ça c'est anecdotique. Hein. C'est pareil dans Le Seigneur des Anneaux, un jeu coopératif. Ils ont fait ce genre de choses... Ça permet de mesurer sa prestation, mais je dirais que la prestation d'un jeu comme ça, on la sent pas comme ça, c'est à travers plutôt les souvenirs qu'on en a d'une partie. Parce que c'est un jeu, je me rappelle une fois, j'explique les règles à des amis, ils me disent « Ouais, bon, ok, on fait la partie », ils me disent « Ouais, mais je vois pas trop la pression ». Et au bout de deux tours, mon copain, il me fait « Ouais, là, je la sens, la pression ». On avait fait que deux tours. C'est un jeu qui laisse pas de temps, on y est tout de suite sous la pression des fantômes, il y en a de partout. On pourrait se dire, je profite des premiers tours pour commencer à gagner 2-3 prendre quelques avantages sur les tuiles villageois, mais en fait, il faut pas perdre son temps, il faut rapidement aller éliminer les fantômes. Il faut une bonne organisation aussi entre les joueurs. Par contre, il arrive des fois que les tirages de pioche soient très catastrophiques pour les joueurs et qu'il faut rendre les parties quasi, enfin, en tout cas, à mon modeste niveau,
impossible
à gagner. Mmh. C'est sans doute possible. Il y a un paquet de niveaux de difficulté. Hein. Vous avez parlé du mode initiation, qui est celui où déjà la première fois vous ne gagnerez pas, mais vous y arriverez avec l'entraînement. Oh. Ensuite, il y a un mode normal. Ensuite, il y a un mode, je sais pas, extrême, etc. Et on finit en mode enfer, enfin un truc. C'est même pas la peine. Déjà en mode normal, quand vous gagnez, vous êtes content.
Oui, quand on
vous
met.
Vous ouvrez la bouteille quand, et c'est la fête.
Quand il n'y a plus que 3 keys et, de points de vie et qu'on rajoute 2 ou 3 Wufang et qu'ils arrivent à la suite, c'est. Mais ça se fait.
Ouais, sans doute. Il y en a qui doivent y arriver.
Alors, on est un peu masochiste. Il faut quand même qu'on dise qu'on aime ce jeu. C'est-à-dire.
Non, mais il faut l'essayer.
C'est un très bon jeu et on a l'air un petit peu négatif en disant c'est trop dur, on se plaint.
Non, c'est ce qui fait son
charme.
Ouais, il y a une vraie pression. Je trouve que dans Pandémie, par exemple, qui est un autre jeu coopératif, très sympathique, etc., je trouve qu'on n'a pas la même pression, à moins de jouer avec l'extension.
Oui. Oui, il faut quand on a envie de challenge, on peut sortir
Ghost Stories. Sortir Ghost Stories.
Et c'est un jeu qui est plus technique, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on s'entende, il faut vraiment. Enfin, il n'y a pas de place à l'erreur, parce que dès qu'on fait une erreur, c'est la porte ouverte à l'arrivée des fantômes et c'est le début de la fin.
Les pires joueurs avec qui j'ai pu faire, c'est ceux qui disent non, mais c'est bon, là, 3 verres avec 3 dés, je l'ai fait, t'inquiète pas. Et blam, ils lancent les dés. C'est un tour de perdu, hein, forcément. Et les tours sont comptés. Je voulais juste rajouter,
oui,
les illustrations sont superbes.
Oui, c'est Pierrot.
Un excellent travail de Pierrot qui avait déjà fait Mr. Jack. Vraiment, c'est sublime. Les plateaux, les cartes, tout est vraiment super. Un excellent travail d'édition par RoboProd. Qu'on peut trouver d'ailleurs, je pense qu'on doit pouvoir toujours télécharger. Moi, je les ai chez moi, c'est mon fond d'écran. J'adore les illustrations des plateaux des joueurs.
Alors, Jérémy, puisque tu parles de téléchargement sur le site de RoboProd, il y a autre chose qu'on peut télécharger. Donc,
le guide de Cyberfarm.
Ouais, c'est ça.
Je vais en parler après parce qu'on dit
stratégie,
c'est dur et tout. Mais il y a quand même des gens bien, ils ont fait. Et il est bien son guide.
Le guide du petit scarabée.
Ouais. Voilà. Donc, un guide qui vous explique bien. Voilà, ouais, le Cyberfarm. Voilà.
Ah bon.
Non, mais je veux dire,
voilà quoi.
C'est bien, mais. Ouais, voilà quoi. Bah voilà. Bah, c'est un guide, donc c'est très bien, mais il faut pas le prendre tout de suite. Je pense qu'il faut faire quelques parties. Pour se demander comment on va faire, on peut aller lire après, ça indique rapidement quelques conseils, comment s'organiser, etc. Ce qu'il y aura dans Ghost Stories, par contre, la critique qu'on peut lui faire, qui est propre à beaucoup de jeux coopératifs, qui fait qu'Olivier adore ce genre de jeu, c'est qu'un joueur peut prendre l'ascendant sur le groupe et dire bah, toi tu fais ça, on fait comme ça.
Je supporte pas. C'est pour ça que Space Alert est un très bon jeu coopérative pour moi, parce que tu peux pas avoir d'idée, quoi.
Je me dis que vu tous les jeux coopératifs qu'on vous cite dans ce numéro, mais que vous ne connaissez peut-être pas, on fera peut-être un petit dossier à l'occasion.
C'est possible.
Ça pourrait être pas mal.
C'est possible.
Voilà. Mais après, choisis tes joueurs, quoi. Il y a des joueurs, voilà, ils sont sympas dans d'autres jeux, mais pas les coopératifs, donc on les invite pas.
Ouais, mais ça, c'est de toute façon, on peut jouer à tout, mais pas avec n'importe qui.
Voilà, hein, c'est comme l'humour.
Ouais, c'est clair. Voilà, alors on voulait vous parler de Ghost Stories parce que c'est un bon jeu, parce qu'on aime bien les jeux coopératifs et parce que ça marche bien. Et puis on voulait surtout vous en parler parce que c'est l'actualité.
Ghost Stories, c'est un jeu d'Antoine Bozache chez Ropo Productions pour 1 à 4 joueurs d'environ 60 minutes et c'est vendu entre 35 et 40 euros.
Oui, l'avantage c'est que c'est pas très très long non plus, c'est bien.
Oui, quand je dis environ 60 minutes, ça peut durer 10 minutes.
Ghost Stories est sorti en 2008. En 2009, Antoine sortait avec RoboProd toujours la première extension, White Moon. Donc White Moon, ça rajoute des villageois. Alors les villageois, on les a sur les tuiles. Il y a des petites tuiles villageois qui doivent être sauvées par les joueurs et amenées vers un portail qui est tout joli. Les villageois forment des familles. Alors une famille de 1 à 3 membres. Alors, je sais pas comment dire parce qu'une famille à 1 membre, je sais pas si c'est une famille. Enfin bon.
Ou des décès dans la famille. Quoi.
C'est ça. L'idée c'est qu'il faut sauver l'ensemble de la famille pour avoir des récompenses. Petite récompense si on sauve une seule personne. Grosse récompense si on sauve 3 personnes. Petite récompense, ça peut être un ki supplémentaire. Et sinon, il y a des objets. Par exemple, une épée qui permet de faire revenir un moine. Donc c'est pas mal. Ça permet de booster un petit peu le truc. La contrepartie, la mauvaise nouvelle, c'est que si les membres de la famille sont tués par le fantôme, dans ces cas-là, le joueur est maudit, il a une pénalité, par exemple il doit rendre un Tao. Ou ça peut aller jusqu'à ajouter un Wufeng. Donc là, c'est
ouais,
le cauchemar.
Ils sont plus à ça près, les joueurs, je veux dire.
Ouais.
Ils ont signé pour avoir ça.
Et donc, 2010, rien. Et 2011.
Bah, 2010, c'était Seven Wonders.
Ils ne pouvaient pas tout faire. Et puis 2012, 2013, 2014, 2015.
Il y a les extensions, Seven Wonders. Voilà.
Mais, et encore, attends, il y a les 8 extensions, il arrive encore à faire tout le reste à côté. Incroyable. Enfin bon, c'est son boulot à plein temps, c'est son boulot. Donc,
bah oui.
2011, Essen, Black Secrets, ou nom de code Secret Up. Ça, c'est pour nous. Donc là, on passe de 1 à 4 joueurs à 2 à 5 joueurs. Et on parlait du félon. Il y a vraiment un félon. Il y a un des joueurs qui va incarner Wufeng himself.
Ouais, mais il va pas. C'est pas un félon inconnu comme dans
Shadow
of the Round.
C'est pas Battlestar Galactica.
Hein, voilà, ouais.
C'est clair. Ah, Battlestar Galactica. Non, le meilleur jeu du monde.
On en a déjà parlé.
Oui, pardon. Donc, il va incarner Wufeng. Il va avoir une influence directe sur le jeu. D'abord parce qu'il va pouvoir choisir l'emplacement de l'arrivée du fantôme. Déjà, c'est cash. Non, tu le mets pas là, tu le mets là-bas. Ok, d'accord. Et puis, il va pouvoir lancer des sorts au lieu de faire entrer en jeu le fantôme. Puis, t'as des sorts plus ou moins puissants et qui vont former une pyramide. Le sommet de la pyramide correspond à l'arrivée du Wufeng et le Wufeng, il prendra un aspect différent. On a parlé tout à l'heure des différents aspects du Wufeng. Ben là, c'est le méchant joueur qui va pouvoir choisir si.
Il vient en marshmallow.
C'est ça. Pense à quelque chose de bien, de gentil. Eh oui, ben le Wufeng, c'est le Wufeng marshmallow. Voilà. Et puis il va y avoir un autre petit plateau qui sera les catacombes et où vont pouvoir apparaître des monstres. Donc il va y avoir un autre niveau de jeu avec des échelles qui vont pouvoir être enlevées. C'est un peu là, j'ai peur quoi.
Oui.
Autant White Moon, ça semblait être plutôt une idée un peu gentille pour les joueurs. Autant là,
ouais, c'est surtout l'arrivée de Wufeng qui est interprétée par un joueur.
Ah mais attends, si tu prends n'importe quel Wufeng, déjà,
Non mais okay, t'as pas le niveau, c'est pas... Alors petit détail quand même sur RoboProd.
Un détail.
Ouais, c'est pas un détail, mais les gars qui sont à RoboProd, il y a quelques années, quand un des seuls jeux coopératifs trouvables sur le marché, c'était Le Seigneur des Anneaux, dont on vous parlera sans doute dans un dossier coopératif.
Je crois qu'on va le savoir, ça.
Ouais, bah non, mais on tease. Non, parce que les gens peuvent ne pas connaître. C'est un jeu un petit peu exigeant, et un joueur pouvait jouer sous rond.
Et excuse-moi, et ça sort quand ce dossier sur les jeux coopératifs?
Ah bah ça va sortir en novembre, hein.
Ouais, on sait pas. On va avoir du boulot en novembre, il va falloir qu'on débriefe ça, tu vas voir.
Oui, donc
excusez-nous, excusez-moi, parce que c'est moi
donc
qui...
Donc c'était Thomas, notamment. Ils avaient...
Thomas
donc
Provost.
Oui, donc à l'époque où il y avait le Seigneur d'Anneau quasiment, qui était un niveau costaud quand les joueurs jouaient contre un Sauron humain, ils avaient sorti un petit guide en fait de survie, en indiquant toutes les astuces, etc., du Seigneur des Anneaux pour y arriver. Et je pense qu'après, eux, ils étaient imbattables, en tant que joueurs. Donc c'est pour ça que, à mon avis, à Ghost Story, ils se sont permis d'aller jusqu'à un mode enfer, parce que c'est des incroyables de ce genre de jeu, je pense qu'effectivement c'est... Et voilà, et donc ils ont, je pense que c'est pareil, au moment ils devaient gagner en mode enfer, ils s'ennuyaient un peu, ils ont dit bah attendez, bougez pas les gars, c'est moi qui fais Wufeng maintenant, on va rigoler.
RoboProd, c'est un auditeur assez atypique, qui arrive à faire à la fois des jeux sérieux et des jeux qui sont complètement déjantés, puisque tu vas avoir Ghost Stories d'un côté, et puis tu vas avoir à l'autre bout du spectre, Time's Up, seul jeu où tu peux confondre leur mode doux et Eloana. Aujourd'hui, on va vous parler d'événements qui vont avoir lieu en octobre et en novembre, parce qu'il y a des événements qu'on ne doit pas rater et pour lesquels il faut s'inscrire. Tu veux commencer, Jérémy ? Non, je ne veux pas commencer.
Si, si, avec d'accord. Plaisir. Je vais commencer, je vais vous parler des jeux du Festival des Jeux de Vauréal, qui aura lieu, alors il va falloir vous dépêcher quand vous écouterez ce podcast, c'est les 1er et 2 octobre, au Gymnase des Toupets, à Vauréal. Alors, sur place, on y trouvera, comme à beaucoup de festivals, les éditeurs, les principaux éditeurs comme Asmodée, Goliath, Croque-Nique-Douille, Les Doux Singes, etc. qui seront présents avec leurs dernières nouveautés. Il y aura aussi quelques auteurs invités, notamment Frédéric Henry, donc l'auteur de Adventurers, Timeline, Asteroid, dont on a déjà parlé. Il y aura également un espace pour découvrir ce qu'on appelle traditionnellement les jeux du monde, donc le CNET, etc.
Les Caroms.
Ouais, il y aura des caroms, évidemment.
J'aime bien le carom.
Voilà. Donc ça, c'est toujours sympa, effectivement. Surtout à s'arrêter en famille. Enfin, une petite partie. Il y aura évidemment des animations pour les enfants. Et puis, il y a évidemment des tournois également où on pourra gagner des lots comme Seven Wonders.
Je connais pas.
Voilà. À force, la blague est même plus drôle. On pourra gagner aussi les nouvelles versions de Coyote, du Hystery Coach, Time No Time, le Chevalier de Night. Il y aura même du Magic en tournoi. Donc voilà, ce festival, il accueille à peu près 2500 visiteurs chaque année. C'est quand même la 13e édition, pour se donner une idée. C'est pas la première fois, ils sont rodés, les gars. Ça marche bien, bon accueil. Un salon familial.
Peut-être arrêter de faire du bruit avec ma boîte de Ghost Stories. Et puis n'oubliez pas, du 20 au 23 octobre 2011 se tiendra le salon du jeu de Essen dans la Roure. Mais ça, on vous en reparlera.
Connais pas.
On vous en reparlera de toute façon pendant tous les podcasts jusqu'à ce que ça arrive. Donc voilà.
Vous serez content quand ce sera passé.
Et pour le week-end du 11 novembre, pour fêter nos poilus.
Eh ben, je te propose un week-end Edge. Il y a eu l'Asmodée le week-end dernier.
Alors, Asmodée, on peut peut-être en parler, peut-être débriefer. Parce que, en fait, moi, j'étais tout déçu de ne pas pouvoir y participer quand j'ai vu que ce qui s'est passé.
Non, mais il fallait gagner son invitation.
Il y a quand même. Non, mais ça, c'est pas un problème. Il y avait plein de concours. C'était pas facile, mais c'était faisable.
A priori, c'était très bien. Ouais. Ceux qui sont allés sont revenus enchantés.
Enchantés. Je pensais, naïvement, pouvoir participer quand même à un événement ludique. D'envergure,
à Lyon.
Tous en jeu.
Ah ouais, alors t'es allé à Tous en jeu en famille.
Eh ben écoute, c'était alors. Super, on est arrivé à 14h, grand soleil, c'était les bords de Rhône, c'est vraiment un plaisir de s'y promener. Mais,
sauf qu'avant 14h, sur Lyon,
ben, y avait plus personne, c'est-à-dire que...
Il y avait plus.
Il a plus.
Pour changer.
Des trombes d'eau, c'était horrible.
Alors non, cher public, il ne pleut pas tout le temps à Lyon, c'est pas parce que ça a déjà été remporté du 4 au 18.
Non, il a plu le 4 et le 18.
Mais ouais, là c'est vraiment pas de bol. Surtout qu'en plus, après, qu'ils aient décidé d'annuler à 14h30.
C'était super beau.
Il a fait super beau.
Ouais, c'était trop tard. C'est voilà. Bon. Donc, Tous en jeu raté. L'Asmodée raté. Alors,
il ne te reste plus que Edge.
Voilà. Non, bon, un petit retour sur l'Asmodée. Beaucoup de choses. Plein de jeux, du Evo un peu partout.
Surtout des jeux transformés. Enfin, où on pouvait jouer en multitable, etc.
Puis il n'y avait pas que du Asmodée. Il y avait aussi le nouveau jeu Splatter, enfin le jeu qui va sortir en 2012, qui était plus ou moins de proto, mais qui était jouable.
Ah, mais c'est qu'en 2012. On se demandait dans le dossier Essen si on
avait Splatter cette année. Non. Alors, a priori, pas de Splatter cette année. C'est sur le thème de l'Afrique. Et ça sortira sans doute l'année prochaine, pas avant.
Et pourquoi il était à Asmodée, tu sais?
Je sais pas. Parce que peut-être que. Parce que Asmodée est un poulpe tentaculaire qui étend ses.
Jusqu'à Splatter.
qui a une liaison jusqu'à Splatter. Ça, c'est possible, hein, et ça serait une bonne nouvelle. D'ailleurs, de pouvoir avoir une distribution des jeux Splatter, comme on a une distribution des jeux de Wallace, de Trifrog, c'est une excellente nouvelle pour nous, en fait.
Ouais, tous les joueurs ne vont pas toujours se servir à Essen, les Splatter,
tout à fait. Donc là, cette année, il va y avoir certainement des rééditions des grands anciens Antiquity et Rosen Boat de Splatter.
Encore ?
Je pense qu'il y a des rééditions.
Excellent.
Et donc, l'Asmodée, également des enchères, avec une nuit avec Rock, 1 700 €. le paravent original de Legend of the Fire Ring, LR5. Ah, je vois Jérémy complètement éteint qui dit de quoi il me parle.
Oui, non, mais. Donc c'est un jeu de rôle, c'est une partie du jeu de rôle avec Croc, c'est pas une nuit.
Bah, alors
peut-être qu'une partie, peut-être que ouais. peut-être qu'un jeu de rôle avec Croc, ça dure une nuit,
ouais, c'est
rien,
pour ça. Mais... Donc une partie de INSMV avec, en fait, il y avait plein de choses à
mais
gagner.
Mais c'est du INSMV, en plus, c'est pas n'importe quel jeu de rôle.
Ah bah non, attends.
Je comprends, je comprends que les gens aient mis une grosse enchère, mais bon.
Mais voilà, et puis plein de choses à voir, plein de gens à rencontrer. C'est un petit peu ça aussi qu'on cherche dans les manifestations ludiques. Et visiblement, l'Asmodée, c'était super. Et je me jetterai sur les invitations, sur tous les concours. Je vendrai mon chat pour avoir une invitation la prochaine fois.
Il suffit juste de te mettre le jour de l'événement, deux rues avant, et t'en chopes un. Tu piques ton ticket. Bon, je peux quand même faire ma news.
Ouais, tu peux.
Alors donc, on vous a mis l'eau à la bouche avec l'Asmodée, tout ça. Donc, il y a Edge aussi. Bah, ils sont un peu jaloux, hein, je pense. Alors, ils font leur événement à eux. Donc, alors eux, ils ont dit, ouais, bah, 24 heures, c'est un peu léger, donc nous, on fait 3 jours. Donc, ça commence le jeudi 10 à 19h, et ça s'étend jusqu'au dimanche 13 à 16h30.
En novembre.
En novembre. Ça vous laisse quand même Bon, 16h30, hein, c'est sûr, il faut après prendre le temps de rentrer chez soi. Ça se passe sur la base de loisirs de l'Eripose, qui se trouve entre Rouen et Paris, qui est accessible par train grâce à la gare du Val-de-Reuil entre Paris et Rouen, donc. Et puis sinon, par voiture sur l'autoroute A13. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire là-bas? Alors, y dormir. Il propose, en fait, on va voir l'hébergement, les repas, évidemment.
J'ai découvert.
Voilà,
Les réservations peuvent se faire sur le site de Edge. C'est 90€ pour les 3 jours, ce qui est raisonnable.
Ouais, par rapport au fait qu'il s'est logé et s'est nourri, c'est pas mal. Évidemment, j'imagine qu'on y va surtout pour jouer, pas pour manger.
Et donc, on va pouvoir découvrir toute la gamme des jeux Edge.
Notamment les nouveautés, que sont Gears of War, Super Dungeon Explorer.
Dont on vous parlera dans un autre podcast.
Voilà, et la nouvelle extension Exodus pour Battlestar Galactica, ça c'est vraiment du côté des nouveautés de la rentrée. Et puis ils ont prévu également quelques tournois, notamment, c'est pareil, c'est sur des jeux assez récents, c'est les Batailles de Westeros, c'est Warhammer Invasion JCE, et puis c'est le Seigneur des Anneaux JCE. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Et puis, côté...
Plein de surprises. Ils promettent plein de surprises, à mon avis. Il va y avoir ces tournois-là, ces parties-là, et puis entre-temps,
Oui, il va y avoir de l'animation, on peut leur faire confiance. Rappelons quand même que Edge, c'est pas un éditeur qui débute dans ce genre d'animation. Pendant quelques années, ils ont organisé la Gen Con avec Asmodée.
Ça va.
Donc ça va, ils ont la maîtrise de ce genre d'événement.
Ils sont fâchés ?
Ça vaut le coup. Non, je sais pas. Ils
parlent plus ?
Ouais, je pense. Ils ont dit stop.
Stop.
C'est des rivaux sans en être, en fait, hein, je pense.
Ah oui, non, ils jouent pas dans la même cour, en fait.
Millennium est aussi distributeur. Hein. Ils sont pas dans la même cour, mais ils sont aux heures d'être potes. Par contre, non, mais j'ai entendu parler d'une Gen Con 2012, mais je sais pas, je l'ai vu à travers quelques tweets. Mais je sais pas si les gens qui en parlaient pensaient à la Gen Con américaine, qui est en été chaque année, ou bien si c'était un renouveau de la Gen Con française qui a duré. 2-3 éditions seulement, malheureusement.
Bah écoute, on verra l'année prochaine.
Eh oui.
Et donc, en attendant, Val-de-Reuil, 10, 11, 12 novembre, et chez
Edge. 10, 11, 12, 13.
10, 11, 12, mais c'est pas 3 jours. 10, 11, 12, 13.
Mais si, mais ça commence le mercredi soir.
Voilà.
Donc, ça fait le jeudi, vendredi, ça fait vendredi, samedi, dimanche, complet, et les nuits avant.
Voilà.
C'est bien.
Faut y aller.
Allez. On va ouvrir avec un jeu qui arrive sur iPad et qui c'est une des premières.
iPad et iPhone.
Ouais, iPad, iPhone, enfin iOS. Et oui, d'ailleurs, on verra, c'est iPad et iPhone obligatoire et qui sort en version numérique alors qu'il n'existe pas de version plateau. C'est ça s'appelle le Pilleur de brume. C'est un jeu qui a été imaginé par 5 étudiants.
Ils ont que ça à faire,
voilà. Non, c'est leur projet de fin d'études. Et donc, ils ont imaginé
ils ont que ça à faire.
Tout un jeu. Bah oui, c'est ça, ils ont que ça à faire, vraiment. Et ils ont imaginé donc un jeu avec des règles. Ils l'ont.
Ouh,
incroyable.
C'est un bon départ. Alors, je vais faire un jeu. Bon, commençons par les règles.
Ouais. Non, mais bon. Enfin, je veux dire, il y en a, ils font des jeux, il n'y a pas de règles non plus.
Ça, c'est vrai.
Donc, voilà. Non, ils ont vraiment pris le temps de poser leur projet, de poser une règle, de poser une identité visuelle. Le jeu est assez sympa, je trouve. Le graphisme est tout à fait correct, en tout cas. Le principe, ce sont des pirates qui vont fouiller dans la brume pour essayer de trouver des trésors. La particularité, c'est qu'il y a une partie qui est visible à tous les joueurs, qui est le plateau, qui est représenté par l'iPad. La petite difficulté, c'est que pour les joueurs, ils ont aussi des informations secrètes qui sont sur leur iPhone. Donc c'est un jeu qui coûte pas cher, il vous faut juste 2500€ au départ de matos. On vous l'a déjà fait celle-là, mais c'était avec le Scrabble et c'était optionnel. Ici ça ne l'est pas.
C'est obligatoire.
Donc si vous n'avez pas trop de sous au début, bah, vous achetez juste un iPad et deux iPhones, puis vous complétez avec vos iPhones au fil des mois, n'hésitez pas. Voilà, alors ils ont répondu à une interview sur le site BoardGameFR. Donc ils présentent un petit peu leur projet, tous les concepts du jeu qu'il y a, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu n'est pas encore sorti. Il doit sortir, je crois.
C'est un projet, ça va être
en 2012. Ouais, c'est pour l'instant, c'est un projet. Ah, bah, on l'a dit, hein, c'est un projet d'études.
Oui, c'est des étudiants.
C'est un stage. C'est comme un stage en entreprise. C'est pas forcément concret directement. Non, je leur souhaite de réussir, enfin, d'aller au bout et puis qu'on puisse avoir ça sur le store à terme. Olivier, dans l'émission, tu disais que tu aimais bien le steampunk. En plus, là, justement, le style, tout est très, enfin, c'est très steampunk, justement. Donc, je pense que on aura
Je vais
plaisir
aimer.
d'écouter ta chronique dans quelques mois.
Mais surtout qu'on va pouvoir jouer, quoi. On a tous. Ah ben non. Non, parce que toi, t'as un Google Phone, donc ça marchera pas. Autre news, Frantic Frankfurt sur iPad et iPhone. Alors, vous connaissez peut-être le jeu de cartes rapide où on a des cartes avec des nombres et des couleurs et qu'il faut de
C'est un jeu de
façon.
rapidité sans défausser de lui.
Eh bien, ça arrive sur iPad et sur iPhone, donc on peut très bien y jouer avec son iPhone et son iPad.
La news super bien préparée pour Olivier. Donc, si vous aviez suivi nous, si vous nous suivez sur Twitter, il s'est trouvé que le jeu a été gratuit pendant un temps sur le store. On a profité pour vous l'annoncer. Donc, c'est un jeu de, effectivement, de rapidité, de défausse de cartes qui se joue normalement à deux joueurs. Ils en ont tiré un nombre incroyable d'exemplaires à l'époque, c'est Heidelberger qui était derrière. Ils en ont eu des stocks, on l'a retrouvé chez Destocker et Son année après année après année après année après année. Je sais pas, je pense qu'ils ont encore pas rentré dans leur sous, donc ils se sont dit on va faire une version iPad. La version est très sympa au niveau graphique, il n'y a rien à redire, ça marche bien. Le problème qu'avait le jeu de cartes, c'est que des fois il se bloquait net. Il n'y avait plus de situation où les joueurs, entre les cartes qu'ils avaient en main, ils pouvaient plus les poser sur les piles pour se défausser rapidement, donc ça freinait, ça arrêtait le jeu, enfin, et c'était assez fréquent.
Donc là, ils ont inventé un système, l'hélicoptère, qui permet de faire un reset, en fait.
Ouais, c'est ça, mais en fait c'est très rare qu'on se bloque maintenant dans le jeu. Enfin, je me
Tu
demande
veux
même
dire qu'ils
si des fois.
trichent?
Ouais, je pense que l'ordinateur est programmé de manière à ce qu'il distribue des cartes de temps en temps pour que ça ne s'arrête pas. Il faut savoir que par contre, il se joue qu'en solo, avec différents modes. On joue en mode 60 minutes, pardon, 60 secondes.
C'est un jeu de rapidité, 60 minutes, pas de
60
problème.
minutes, on va regarder combien de temps vous tenez. Il y a un mode avec seulement 64 pour faire le high score, etc. Effectivement, dans certains des modes, on peut utiliser des hélicoptères pour rebrasser les cartes directement ou pas. Voilà, c'était un jeu, le problème c'est qu'il joue tout seul, mais qui reste assez sympa dans la mesure où il était gratuit. Donc l'application est toujours gratuite pour l'instant sur le store. Le petit bémol quand même sur le jeu, c'est qu'il est aussi en anglais, donc ce qui peut gêner, notamment l'explication des règles, est entièrement en anglais. Frantic Frankfurt, voilà, c'est gratuit.
C'est gratuit.
C'est pas mal quand même. Et c'est en plus c'est universel. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez payé gratuitement pour iPad, vous pouvez
Vous
jouer
pouvez jouer
gratuitement
sur
sur iPhone.
iPhone.
Et réciproquement.
Avant que je fasse ma critique de Ghost Story sur iPad, tu veux nous parler de peut-être d'une petite application Android qui s'appelle Caméléon?
Bah ouais, mais tu me coupes mes news, j'ai Jumbo avant, j'ai le
Eh
iPhone
ben vas-y,
de Jumbo. Alors on
vas-y.
mettra la vidéo ou un lien vers la vidéo YouTube. Et voilà, et c'est super, c'est Jumbo qui invente le iPhone. Donc je pense qu'il vient avec une application en même temps. C'est un pion qu'on déplace sur l'iPad. Ils nous font croire que c'est super, qu'il interagit directement avec l'iPad. Avec un sort de jeu de loi et le pauvre pion se retrouve dans la vidéo, on le voit le pauvre pion qui se retrouve aller en prison. Je pense en fait c'est simplement ils ont exploité je sais pas, la manière qu'il a d'appuyer sur l'iPad, je pense qu'il fait qu'il est détecté.
Yeah!
Ah c'est la vraie famille type.
Ah mais attends, tu tapes le Meeple sur l'iPad?
Ouais.
Ah non?
Bah c'est ton vieil iPad 1. Mais c'est la première fois quand même qu'un éditeur, enfin, je veux dire, on avait vu ça, on l'imaginait depuis le début quand Microsoft avait sorti les surfaces, là, ces grands plats de seconde. On disait, ah ouais, on pourrait mettre les pions dessus. Sur l'iPad, c'était encore pas arrivé, bah, ça y est, Jumbo le fait. Alors, par contre, je pense que le.
C'est des petits pions avec des bouts de doigts à l'intérieur.
Bah, je sais pas, ouais, je pense qu'ils ont en fait une forme spéciale qui fait qu'il est détecté comme ça.
Oui.
Voilà, non,
Comme
mais c'est
quoi,
juste pour la petite
c'est
vidéo.
science sans conscience n'est qu'une ruine de l'âme.
Bah écoute, ouais, alors, ils annoncent des jeux de base, hein, ils annoncent. Alors, Air Hockey, alors je vois pas
Bon,
comment tu joues
ça.
au Air Hockey sur.
Quoi?
Il y a pas besoin. Bah ouais, il n'y a pas besoin du vieux iPhone. Mais bref, Game of Goose, donc c'est le jeu de loi, voilà, c'est ce que je dis, c'est triste, les jeux de loi. C'est pas des vrais jeux en fait. Alors, Fishing Game, je sais pas.
C'est l'utilisation d'une technologie, mais dans un but
Dans un but
assez non
pour aller
ludique.
coucher les enfants.
Ouais, c'est ça.
Ils sont fatigués vite fait. Et puis, il y a les
Mais
serpents, les échelles.
est-ce que tu peux me dire pourquoi on en parle en fait?
Bah parce que c'est mignon,
D'accord,
c'est
c'est
la
bien, c'est
première fois
bien.
qu'un jeu de
Okay.
société sur iPad et qu'on met un pion dessus.
Ouais, mais tu te rends compte que ce soir, on a parlé du projet de fin d'année, de Frantic Fort Fort, et puis de Jumbo, oui, c'est ça. Alors, on va peut-être passer à autre chose.
Et ben quoi, mais on étoffe un petit peu les écrans.
D'accord. Non,
Parce
enfin, il faut
qu'après,
dire,
tu vas être négatif.
Il faut dire que les écrans, plus ça va, et
Moi, ça
une
va.
grosse sortie pendant l'été, avec on a eu la chance
Non,
d'avoir.
le Frantic Francfort, celui-là, c'est gratos, faut pas déconner.
Oui, bah pour le prix, c'est bien.
Voilà.
Mais on a eu une grosse actualité pendant l'été, et maintenant, ça tend à se calmer. Alors après, à
On
voir
en
ce
verra
que
avec
ça donne.
Essen, ouais, il y a une grosse actu qui arrive. Hein.
Oui, on est dans le creux
En
de la vague, tu veux
français,
dire?
ouais. En français, il y a une grosse actu. Je te montre Caméléon.
Ah, tu me montres, tu vas me parler de
Je vais te
Caméléon.
montrer mon Caméléon. Alors, Caméléon, c'est un jeu chez BlackRock Edition qui arrive en version numérique, avec en participation avec Ideal, c'est ceux qui ont fait Kamaté, dont on vous a parlé l'autre fois, et nos amis de Forge Next qu'on a interviewé l'année dernière.
Donc tu veux dire que c'est un jeu de cartes?
Ouais, c'est un jeu de rapidité un peu style Jungle Speed.
Ouais.
Après, on verra tout à l'heure, je dirais que c'est un Jungle Speed moins. Et voilà, donc a priori, il devrait arriver en version boîte dans les boutiques bientôt, et il est déjà sorti sur Android. Pendant qu'on parle d'Idéal, je parlais de Kamaté. À noter que j'ai échangé avec l'auteur. Il semblerait que Kamaté sera porté sur Android.
Ma nouvelle.
Voilà, bonne nouvelle. Par contre, Caméléon restera sur Android.
Bonne nouvelle.
Ah oui, les joueurs iPhone ne connaissent pas leur chance. Caméléon, c'est un jeu tout simple. En fait, ça peut se jouer de 2 à 4 sur l'écran. Ce qu'il y a, c'est que sur le téléphone, c'est petit, il vaut mieux le jouer sur une tablette.
Tu veux dire, il n'y a pas besoin de
Regarde,
4
on va
Google
jouer
Phone?
avec Olivier. Ouais, non, tu peux jouer, hein, voilà. Je vais mettre 2 joueurs, je vais mettre un mode facile au début.
Les graphismes sont sympas.
Ouais, mais c'est sympa, mais parce que c'est l'équipe Forge Next, je pense, qui est derrière, notamment. Et puis c'est un jeu qui est édité. Donc on a une carte avec un fond de couleur, un animal et un chiffre. Il va falloir reproduire ces trois caractéristiques à travers des cartes qui défilent. Donc par exemple,
Tu tapes dessus quand c'est bon?
ouais, quand c'est correctement, c'est-à-dire quand t'as une
Un
carte qui
cochon.
est, par exemple, il faut que la carte elle t'affiche ta
Un cochon
grenouille, le
bleu.
fond blanc ou le chiffre 2.
Ça marche pas.
Non, c'est pas bon, là t'as raté. Voilà, alors voilà, le seul côté interactif. Et si jamais on se trompe, pendant un
Ah.
moment on peut pas taper sur
D'accord.
son écran pour récupérer la carte. Voilà. Mais c'est un mode de, c'est un jeu voilà où on attend que la carte arrive.
Mais c'est parce que t'as ce que t'as demandé un jeu à deux joueurs, mais à quatre.
Et bah, 4 joueurs, c'est pareil. C'est un peu plus interactif, mais c'est pas non plus.
Pourquoi il y avait
T'avais
une.
déjà une grenouille, donc maintenant il
Ah.
faut du blanc ou du 2.
D'accord.
Le seul truc interactif, c'est ça. C'est
Alors,
d'aller taper sur l'écran de
c'est
l'autre.
ça, tu peux emmerder l'autre en. D'accord. Ok.
Voilà. Mais
Alors, je vais dire un truc.
ouais, vas-y,
Moi,
juste.
entre Jumbo et
Et Caméléon?
les petits pions dans les doigts et les petits doigts dans les pions et le jeu de loi ou ça, et ben j'aime autant ça, tu vois.
Ah oui, non, mais c'est sûr. Non, mais c'est sympa. Enfin, genre, mais on l'a sorti même à 4 humains.
Bah, c'est un peu comme un double, quoi. C'est un petit jeu rigolo
Ouais, mais
de
la différence, c'est
rapidité.
qu'un double, tout le monde joue en même temps et tout le monde est assuré qu'il y a une combinaison gagnante. Or là, des fois, bah, t'attends une
Ouais,
carte
c'est
et
ça le
puis t'attends,
problème.
quoi. Et bah,
D'accord.
tu peux rien faire. Tu peux même pas faire semblant d'aller choper le totem comme à Jungle Speed. Tu peux rien faire de spécial. C'est juste quand 2 joueurs ont une même carte avec une même caractéristique qu'il va falloir se précipiter pour taper, quoi. Donc à la fin, l'autre jour au café, ça s'en est terminé à ce que chacun tapait sur l'écran de l'autre pour le pénaliser le maximum de temps. Parce que ce qu'ils
Ah
ont
merde,
fait,
j'ai tapé en fait après un cochon.
ce qu'ils ont fait par rapport à la version jeu de cartes qui va sortir en boîte, c'est que quand on tape sur son écran et qu'on n'aurait pas dû, pendant un moment, on est pénalisé et on ne peut plus taper.
Ah oui, tout à fait. Et là, plus personne ne peut
Et ça
taper.
dure, et à la fin, ça dure longtemps.
D'accord. Bon, qu'est-ce qu'on en dit alors de Caméléon? On aime ou on n'aime pas?
Non, j'aime pas les masses. Pour moi,
D'accord.
c'est voilà. C'est 79 centimes sur l'Android Market.
Et puis ce soir, on voulait vous parler de Ghost Stories, on voulait vous parler de l'ensemble de ce qui était sorti, donc jeu de base, extension et puis portage sur iPad. Pour tout vous dire, on avait déjà essayé de faire la critique du portage sur iPad et ça s'était pas très très bien passé. On n'est pas super motivé et bon, ça n'a pas donné ce qu'on voulait. Donc dans ces conditions, et puis en vous répétant que Ghost Stories est un excellent jeu et qu'il faut pas faire l'impasse dessus, je vais quand même un petit peu, on va quand même un petit peu vous parler du portage sur iPad. Alors, Premièrement, c'est beau, c'est Pierrot. Qu'est-ce qu'il y a?
J'ai encore le camion qui fait du bruit dans mon téléphone.
C'est beau, c'est Pierrot, ça reprend les illustrations du jeu de base. L'interface est assez simple. On appuie sur le nouveau jeu et puis là commence la déception. Puisque on ne peut pas jouer avec 4 joueurs, on peut jouer seulement avec 2 joueurs.
C'est dommage, là t'avais invité tous tes amis en disant « Regardez, on va tous jouer ensemble. »
Sur un seul iPad. Voilà. Et ça, c'est un gros problème. C'est déjà un gros problème parce que le niveau de difficulté n'est pas le même quand on joue avec un personnage ou quand on joue avec 4.
C'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans la version plateau.
Mais c'est possible.
À 2 joueurs, il existe une variante pour jouer à 2 et c'est beaucoup plus costaud.
C'est ça. On a la possibilité d'utiliser les pouvoirs des autres joueurs avec un système de pions qu'on peut récupérer ensuite. Mais ça ne remplace pas. C'est toujours plus difficile. Donc, on a la possibilité de choisir ces deux couleurs de figurines, enfin ces deux couleurs
avec
de moines.
Les pouvoirs qui vont avec.
Et puis on peut aussi avoir la difficulté initiation, normal, cauchemar ou enfer. Donc ensuite, on fait continuer, tout ça très bien. Et c'est là qu'on se dit, je vais mettre un petit peu de son. Parce que quand même, c'est bien. On retrouve l'ensemble du jeu avec les 9 fils de villageois et les plateaux des joueurs. Alors, ce qu'il y a quand même de pas mal, c'est qu'on peut changer, on peut tout customiser. C'est-à-dire, si on veut le vert à droite, le rouge en bas et puis le jaune, je sais pas où, on peut le faire, ça n'a pas de problème.
On peut choisir son pouvoir.
Et on peut choisir le pouvoir, on peut démarrer, on n'est pas obligé de démarrer avec un pouvoir. Oui, tu peux choisir.
Non, choisir de que... quel côté tu...
Tout à fait. Et là, on commence à s'apercevoir que les sons sont un petit peu particuliers.
Très sympa. Ils font leur gym.
Voilà. Ensuite, on commence la partie, et puis on fait rentrer les fantômes. Tu mets le son en même temps ?
Ouais.
On va pas le mettre trop longtemps parce que... Voilà.
Il est beau celui-là.
Et bon, ça marche bien. On met... c'est pas... Une des choses qui est un petit peu déstabilisante, c'est que sur iPad, on a l'habitude de faire du cliquer-glisser. Enfin, appuyer-glisser. Et là, en l'occurrence, on fait du appuyer-appuyer. C'est-à-dire qu'on va d'abord sélectionner le fantôme et après, on va appuyer sur la case sur laquelle on veut aller.
Heureusement, les cases sur lesquelles on peut mettre sont
surbrillance.
Passer en surbrillance. Donc ça permet quand même de...
Donc après, on peut... lui, il arrive avec un nouveau fantôme. Donc on va faire entrer le deuxième fantôme. Et les sons sont quand même assez spéciaux et on va le mettre ici.
On dirait un jeu d'ambis.
C'est ça. Donc déjà, on coupe le son, parce que le son, c'est juste des bruitages et c'est assez insupportable, et après on va jouer. On a la possibilité de se faire rappeler à tout moment tout ce qui est intéressant.
Les pouvoirs des tuiles,
les fantômes. Par exemple, le fantôme conjureur, lorsque ce fantôme arrive en jeu, il appelle un autre fantôme, etc. etc. Tout ce qui peut être expliqué commence à être en surbrillance, donc on peut se rappeler le pouvoir des tuiles de village, donc ça c'est bien. Mais après, on est très vite limité, c'est-à-dire qu'on est limité parce que on n'a pas la possibilité de... C'est insupportable.
Oui, on a le son même quand on demande l'aide d'un fantôme.
On n'a pas la possibilité de jouer avec les quatre fantômes. On n'a pas la possibilité de jouer avec les quatre moines. Donc, voilà. Autre point négatif, c'est les règles. On a des systèmes comme dans Puerto Rico où le jeu est très facile à apprendre puisque tu as le tutoriel et que tu peux, de 50 millions de façons différentes, comprendre ce que tu es en train de faire parce que tout est expliqué. Les cartes, les pouvoirs, les bateaux, tout ça, tout est expliqué. Et en plus, tu as une partie didacticielle. Tu commences ta partie, puis tu joues une partie à blanc où on va te dire tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Là, c'est pas le cas. T'as vraiment des règles. T'as 32 pages de règles.
Il faut lire juste les 32 pages. Et ouais. En plus, c'est quasiment les mêmes versions. Enfin, elles sont présentées, j'ai l'impression, comme le jeu boîte.
Oui, et alors ça, c'est un truc dont on n'a pas parlé. Les règles sont. Elles sont claires, mais elles sont difficiles. Enfin, c'est difficile après de retrouver.
C'est pour des gens qui connaissent le jeu, en fait.
Ouais, tout à fait.
Ça peut. Ouais, c'est sûr, quelqu'un qui achète ça à côté sur le store et qui. Je sais pas si, enfin, c'est comme un jeu qu'il achèterait dans le commerce en s'étant trompé. Il voit la règle, il prend peur, il la lit jamais, il y joue jamais. Sauf qu'on le verra jamais sur un vide-grenier celui-là.
Donc voilà. C'est pas pour moi, c'est pas une réussite dans le sens où c'est bien fait. ça marche. C'est pas super intuitif parce que justement il y a ce problème d'interface où on a l'habitude maintenant avec les jeux qui sont sortis de déplacer le matériel un peu comme dans les aventures du rail et là en l'occurrence eh bien, ils n'ont pas suivi la norme.
Et même visuellement il y a quand on zoome sur des tuiles du village elles sont pas la définition est pas belle.
Alors oui autre problème c'est que on dirait que ça a été vite fait.
C'est ça.
Qu'ils ont repris des images et qu'en fin de compte, quand tu veux essayer de voir à quoi ça correspond ça, ça se met plus gros. Et là, tu te dis, j'ai mal aux yeux, j'ai un problème. Ah non, 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 c'est juste pixelisé parce qu'en fait, ils ont repris ils ont repris une.
Ils ont repris l'image du plateau, je pense.
Tu pourrais me dire que je parle pas dans mon micro depuis tout à l'heure. Ils ont pris l'image de la tuile et je vous dirai pas ce qu'il a fait. Et en fait, c'est moche, quoi. Donc voilà. Donc voilà, pas conquis et pas.
Alors donc voilà, le jeu est un excellent jeu. Hein, et on vous renvoie à notre critique il y a quelques minutes. Par contre, le portage sur iPad, effectivement, est loin de nous avoir satisfait. Pour autant, si un joueur est vraiment fan du jeu et qu'il passe outre ses défauts, parce qu'après tout. Si on aime le jeu, si on est vraiment passionné du jeu, je pense qu'on peut passer outre ses défauts. Le joueur, il trouvera son compte aussi. Hein. Faut jouer à deux, quoi. Enfin, on va perdre du coup le côté un peu coopération. Hein. C'est ce qui est aussi bien, c'est-à-dire que les joueurs s'entendent entre eux.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu peux, dans certains cas, je comprends que les Aventuriers du Rail ou certains autres jeux, on veuille les brider, c'est-à-dire on dise bon, ok, c'est pas le jeu de plateau. Je veux continuer à vendre mon jeu de plateau et j'ai pas envie de livrer complètement le jeu.
Alors qu'au final, ils ont sorti une V1.1 sur Ticket to Ride et on peut maintenant jouer à plusieurs dessus.
Oui, on peut.
Espérons que RoboProd fera pareil et permettra de jouer à 4 à Ghost Stories sur l'iPad.
Mais là, en plus, tu perds quelque chose, quoi. Tu peux facilement jouer en ligne ou. Alors, ça peut être aussi une solution, c'est le jeu en ligne. Quand tu joues aux Aventuriers du Rail. C'est pas grave, tu peux jouer à un ou à deux, et même l'iPad se prête très bien à du jeu à moins de joueurs. Mais là non, quoi. Là non.
Surtout que c'est plus costaud à deux joueurs en plus.
Mais c'est ça. Alors il faut d'abord que tu connaisses les règles, ensuite il faut que tu connaisses les tactiques et que tu aies envie de te frotter un peu au Wufang force 8. Et voilà, donc bon.
On peut même pas jouer tout seul ?
Mais si, tu peux jouer tout seul.
Mais avec deux moines.
Parce que tu fais remonter, hop.
Ah oui, voilà. Je cliquais pas au bon endroit, tu vois.
On vous le recommande, mais dans certaines conditions, c'est-à-dire que si vous avez bien...
Si vous êtes sourd, aveugle.
Voilà. C'est combien ?
5,49.
5,49 ? C'est vrai ?
Oui.
Oh putain, c'est pas donné en plus. Hein.
Ah bah à ce prix-là, prenez Ticket to Ride. Avant de se quitter, on vous rappelle l'adresse de notre site.
C'est fini ?
Ah ouais, c'est fini en fait. Là. T'as pas entendu le jingle juste avant ? Ça disait qu'on arrivait au final.
Ah d'accord.
Regarde, t'auras même bientôt le rebêtisier. Donc avant de se quitter, on vous rappelle l'adresse du site. Donc c'est podcast.proxy-jeu.fr. Proxy avec un i et jeu au pluriel avec un x. Vous y trouverez toutes les infos sur les sujets qu'on a abordés ce soir. Tous les liens vers tout. Les visuels, tout ce qu'il vous faut.
Oui, s'il vous manque quelque chose, il faut me le dire. Je le mettrai. Non, mais on veut que le billet soit un support au podcast. On n'a pas le temps de tout dire et parfois on a quelques petites ratifications. Ça arrive rarement. Et puis on aime bien vous orienter vers des ressources externes. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site.
Oui, c'est plus facile pour nous de mettre un lien sur le site que de vous énumérer le lien.
HTTP, www. C'est plus facile. Et puis, pendant que vous êtes sur le site, vous pouvez mettre un petit commentaire, nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Par exemple, si on rigole un peu trop, vous pouvez nous le dire. On essaie d'être un petit peu plus vivant, un petit peu plus dynamique, donc ça, j'espère que ça marche. On dit un petit peu plus de bêtises aussi.
Merci. Et encore, on en coupe un paquet. Hein.
Oui, mais c'est le bêtisier. Donc, merci à tous ceux qui nous laissent un commentaire. Par contre, s'il vous plaît, installez-vous iTunes. Mettez-nous un commentaire sur iTunes. On n'a pas beaucoup de commentaires, en fin de compte. On sait que vous êtes nombreux à nous écouter. On a quelques notes, mais on n'a pas beaucoup de commentaires. Donc, laissez juste...
Au passage, merci à TireTed qui nous a mis un commentaire cette semaine.
Oui, Salaud, il n'a mis que 4 étoiles.
Ouais, alors, par
qu'est-ce,
contre,
qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Si c'est pour mettre 0, hein, abstenez-vous, par contre.
Non, même, mettez des étoiles, le nombre que vous voulez, mettez un petit commentaire, c'est super. On se retrouve dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien.
On dit plus qu'il faut coucher pour l'Asdor, hein, on l'a déjà dit.
Non, on devait pas. Pourquoi t'as enchaîné en fait? On s'en fout, je
dis. Tu couperas.
Mais non, mais comment je coupe? Le problème, c'est ça.
C'est les 1er et 2 octobre. Ça, je l'ai déjà dit. Ça commence le samedi à 13h.
Ouais, il en faut un peu pour le bêtisier aussi, quand même.
Ouais, voilà, bah c'est pas mal. Donc, est-ce que j'ai dit que c'est le 1er et 2 octobre?
Tout à fait. Tout à fait, Jerry.
Donc c'est le samedi, ça commence le samedi à 13h.
Ça commence le samedi 1er octobre.
Ça commence le samedi 1er octobre.
Et ça finit le dimanche 2 octobre.
Voilà, donc c'est, on peut dire que ça va, c'est du 1er au 2 octobre. Voilà.
Autre news, Frantic for... Mais merde.
Il y a du bêtisier dans l'air.
Ouais.